Éric Amous, procureur de la République à Narbonne, revenons sur vos actions récentes. Alors, parmi les choses les plus spectaculaires, il y a, par exemple, les démantèlements de réseaux de drogue sur la ville de Narbonne.
Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, les services de police et de gendarmerie, alors beaucoup de services de police, puisque la ville de Narbonne relève de sa compétence, ces services ont investi de nouvelles méthodes d'investigation qui sont directement issues des textes relatifs à la lutte contre la criminalité organisée. Nos concitoyens voient bien que des opérations importantes sont menées. Il faut vraiment qu'ils se rassurent sur le sens profond de ces opérations. Oui, vous avez des délinquants qui vivent très bien à Narbonne, parce que le soleil, parce que la qualité de vie. Mais il est hors de question qu'une ville comme celle-ci, ou comme les autres villes d'ailleurs, puisse être le réceptacle d'individus qui se livrent à de la délinquance, encore plus en matière de trafic de drogue. Et ayant fait, comme tous les autres procureurs de France, de la lutte contre ce trafic, une véritable volonté d'action, eh bien, nos services de police ont, comme beaucoup ont pu le constater, armé des procédures et interpellé des personnes qui ont été lourdement condamnées par le tribunal correctionnel.
Alors, ça peut surprendre, je dirais, le Narbonnais moyen ou l'habitant moyen de la région, parce que on a l'impression que c'est nouveau, que ça ne se faisait pas ou ça n'existait pas, ou en tout cas qu'on l'ignorait auparavant.
C'est surtout la mise à disposition auprès des services d'enquête de nouveaux moyens d'investigation, de nouvelles techniques d'investigation et de nouvelles autorisations d'investigation. Ce qui fait que nous avons de vraies réussites, notamment cette fameuse cité des Platanes dont tout le monde parlait lorsque je suis arrivé. Le démantèlement fait suite à un très important travail d'investigation. Après, cette nouveauté ne doit surtout pas générer de l'inquiétude ou un éventuel sentiment d'insécurité. Je le dis parce que c'est vrai que nous avons un nombre de plaintes plus important et les statistiques parlent d'elles-mêmes. C'est surtout, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, parce que les victimes parlent, parce que les gens se mettent à parler. Et quand ils parlent, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'ils sont rassurés. Ça veut dire qu'ils se disent qu'ils peuvent faire confiance à l'institution. C'est d'autant plus important de le dire que je lis parfois ici ou là des écrits qui surfent de manière d'ailleurs très généralement très maladroite sur le sentiment d'insécurité, sur le fait que rien ne fonctionne, sur la peur qui doit habiter chacun de nos concitoyens. Il faut lutter contre ça. La peur, par nature, est quelque chose d'irrationnel. Et cet irrationnel-là, eh bien, il faut y opposer la réalité du travail que font les policiers et les gendarmes au service de la population. Alors c'est vrai que un drame peut toujours arriver. Nous en avons connu sur le territoire national. C'est pas pour autant qu'il faut imaginer qu'en sortant de chez soi, en allant faire son marché, en allant chercher ses enfants à l'école, automatiquement on va être agressé. Vous avez des policiers nationaux, des policiers municipaux qui sont là, présents sur le territoire, présents sur le ressort, des gendarmes qui sont particulièrement actifs, et l'ensemble de ces services participent ouvertement et efficacement, et j'en suis le premier témoin, à la protection de nos concitoyens. Donc je pense que c'est important de se rassurer. Et je crois que ce message, il faut réellement le porter. Et le tribunal est là pour condamner ceux qui transgressent la loi et ceux qui mettent en danger les autres.
Alors, à propos de drogue, j'ai envie de sortir presque des banalités ou des lapalissades. S'il y a du trafic de drogue à Narbonne ou ailleurs, c'est qu'il y a des acheteurs. Par exemple, dernier chiffre, je crois, fourni par vous-même sur un démantèlement dans le quartier de Bourg, on parle d'une centaine de clients par jour. Donc, à partir du moment où il y a s'il y a des dealers, c'est qu'il y a des acheteurs. Et on se pose la question, est-ce qu'on attaque vraiment ce problème-là ou y a-t-il moyen de l'attaquer? Parce qu'il touche l'ensemble de la population et plus seulement les délinquants.
Alors, la question de la problématique de l'usage de produits stupéfiants, c'est d'abord un problème de santé publique. Le procureur de la République, lui, sa mission, c'est de faire appliquer la loi pénale, c'est-à-dire de se concentrer sur ceux qui pourvoient ces produits de mort. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que nous avons mis en place un certain nombre de structures aujourd'hui, mais surtout de pratiques novatrices, Pour votre mot, votre verbe, c'était s'attaquer. Oui. Alors, on les a pas seulement attaqués, on les a agressés. Et ça, je le porte ouvertement, puisque maintenant que les services d'enquête maîtrisent assez bien les techniques d'investigation sur ce type de trafic, eh bien, nous avons développé des enquêtes miroirs pour permettre à l'ensemble des acteurs publics qui participent à la lutte contre la criminalité de pouvoir disposer des éléments d'information utiles.
Mais ça touche essentiellement les délinquants, mais celui qui est consommateur, c'est-à-dire le monsieur tout le monde, celui qui va acheter sa drogue, encore une fois, s'il n'était pas là, les dealers n'auraient rien à vendre. Et on a l'impression, on ne sait pas par quel bout prendre le problème, en quelque sorte.
Si,
le voyez-vous, ça?
Non, il est pris en compte. Il est pris en compte par les services hospitaliers, il est pris en compte par les associations qui œuvrent tous les jours, parce que nous savons tous que la problématique de l'usage de drogue, cela renvoie à des problématiques personnelles qui relèvent des accidents de la vie, d'ordre psychique, d'ordre psychologique. Et même si la loi pénale incrimine l'usage de drogue, c'est d'abord le traitement social et médical qui doit s'imposer. Et c'est d'ailleurs le sens de la loi. C'est le sens de la loi. En revanche, pour ceux qui fournissent les produits stupéfiants, là, en revanche, il faut que ce soit la répression qui parle.
Oui, la délinquance, elle est de ce côté-là.
C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle les dispositifs que nous avons mis en place aujourd'hui, c'est une communication des procédures auprès des différentes administrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez l'exemple du trafic de drogue, je vais vous en parler. Le trafic de drogue aujourd'hui, c'est d'abord le fait d'encourir une lourde sanction devant le tribunal correctionnel avec des peines de confiscation. On va voir ce que va dire le tribunal correctionnel sur la dernière opération où les services de police sont saisis pour 120 000 euros d'avoirs criminels, aussi bien de l'argent que des bijoux et un ensemble de richesses. Il faut savoir que l'enquête en elle-même ne va pas s'arrêter au tribunal correctionnel. Une copie de la procédure va être envoyée à la Direction générale des finances publiques. C'est ce qu'on appelle les enquêtes miroirs. C'est-à-dire que il faut savoir qu'un produit stupéfiant est une valeur. Et oui, c'est une valeur imposable. Une valeur imposable en plus avec les pénalités requises. Et la Direction des finances publiques va imposer la personne sur cette richesse. Ensuite, nous allons communiquer les conditions d'utilisation des logements sociaux pour le trafic de drogue aux bailleurs sociaux, pour que le bailleur social puisse armer une procédure d'expulsion. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs pour la Cité des Platanes, puisque comme la loi m'y autorise, nous avons transmis à la demande de Domicia Habitat les éléments qui ont permis au bailleur social de pouvoir saisir la justice aux fins d'expulsion des personnes qui, louant des logements sociaux, eh bien l'utiliser pour le trafic de drogue. Parce que ça, c'est juste inacceptable. C'est pas possible d'envisager qu'on puisse accepter de laisser dans un logement social une personne qui fait du trafic de drogue, alors que vous savez que vous avez 20, 30, 40 familles qui, elles, attendent ce logement pour avoir un toit sur la tête. Et puis, sachant que c'est le sens de la convention que nous avons signée avec Domicia Habitat, nous signons avec Marco Habitat cet après-midi et logiquement nous devrions signer avec les autres bailleurs sociaux. Et puis, très souvent, trop régulièrement, les policiers ou les gendarmes, lorsqu'ils font l'audition de la personne, l'interrogatoire de la personne, se rendent compte qu'en réalité, elle est en situation de fraude sociale. Voilà, dans quelles conditions est-ce que vous vivez ? Ben écoutez, je vis avec mon père, je vis avec ma sœur, ma famille, mon épouse. Attendez, tout à l'heure, dans vos conditions de ressources, vous avez expliqué que vous bénéficiez de l'allocation parents isolés. Donc ça, c'est également une enquête miroir que nous faisons monter, que nous élaborons pour transmission à la caisse d'allocation familiale. C'est cette nouvelle pratique d'enquête qui a été inaugurée, que nous avons amorcée à compter du mois de juin, et aujourd'hui qui est systématisée, puisque j'ai adressé à l'ensemble des services d'enquête une note d'action publique dans laquelle je précise exactement à la fois le process, les questions à poser et les modalités de communication de ces éléments, parce que même si l'enquête est secrète, la loi permet au procureur de la République de s'affranchir de ce secret pour communiquer ces éléments aux différentes administrations. Par exemple, pour la caisse d'allocation familiale, vous avez l'article L114-16 du Code de la Sécurité sociale qui dit « Le procureur peut communiquer tout élément utile lorsqu'une situation de fraude est révélée ». Donc, que nos concitoyens sachent que maintenant, eh bien, tous les services administratifs vont être saisis de ces situations de fraude révélées par les enquêtes judiciaires.
Voilà, et c'est ça que vous appelez enquête miroir.
Oui, ça fonctionne comme un miroir, c'est-à-dire une enquête. On va en communiquer le reflet, par l'effet miroir, aux différentes administrations, à la direction des finances publiques, au bailleur social, à la caisse d'allocation familiale, pour qu'il y ait une imposition fiscale sur la valeur illicite, sur la richesse illicite de la personne, pour que la personne qui utilisait un logement social pour commettre des infractions soit expulsée, pour que la personne qui était au bénéfice d'allocations versées par la caisse d'allocation familiale alors qu'elle ne devait pas y avoir droit, eh bien, la caisse d'allocation familiale puisse recalculer les droits, voire les supprimer. Tout cela parce que il n'est pas tolérable que des personnes puissent, de manière illégale, bénéficier d'avantages qui résultent de la solidarité nationale.
On marque, Éric Amos, une seconde pause.